Chapitre 8. La pierre Dieu. Le bouchon de cristal filait à la surface. Don Luis causait, entouré de Stéphane, de Patrice et de Tout va bien.
Quel canaille que ce Vorski. J'en ai pourtant vu de ces monstres-là. Mais jamais d'un pareil calibre.
Alors, dans ce cas, j'en reviens à ce que je vous ai dit. Vous tenez entre vos mains un monstre et vous le laissez libre. Sans compter que c'est fort immoral. Songez à tout le mal qu'il pourra faire, qu'il fera, inévitablement. N'est-ce pas une lourde responsabilité que vous prenez, celle des crimes qu'il commettra?
C'est également votre avis, Stéphane?
Je ne sais pas trop quel est mon avis. Puisque, pour sauver François, j'étais prêt à toutes les concessions. Mais tout de même...
Tout de même, vous auriez voulu une autre solution.
Je l'avoue, tant que cet homme sera vivant et libre, Madame d'Hergemont et son fils auront tout à craindre de lui.
Mais quelle solution? Contre le salut immédiat de François, je lui ai promis la liberté. N'aurais-je dû lui promettre que la vie et le livrer à la justice?
Peut-être,
dit le capitaine Belval. Soit. Mais dans ce cas, la justice instruisait, finissait par découvrir la véritable identité de l'individu et ressusciter le mari de Véronique d'Hergemont et le père de François. Est-ce cela que vous désirez?
Non. Non, en effet,
confessa Patrice Belval assez embarrassé.
Non, cette solution n'est pas meilleure. Mais ce qui m'étonne, c'est que vous, Don Luis, vous n'ayez pas trouvé la bonne, celle qui nous eût satisfait tous.
Il n'y en avait qu'une.
Laquelle?
La mort. Il y eut un silence. Mes amis, ce n'est pas par simple jeu que je vous ai réunis en tribunal. Et ce n'est pas parce que les débats vous semblent terminés que votre rôle de juge est fini. Il continue. Et le tribunal n'a pas levé séance. C'est pourquoi je vous demande de répondre franchement. Estimez-vous que Vorski mérite la mort?
Oui, sans aucun doute.
Mes amis, votre réponse n'est pas assez solennelle. Je vous supplie de l'exprimer selon les formes et en toute conscience, comme si vous étiez en face du coupable. Je le répète. Quelle peine méritait Vorski? Ils levèrent la main et l'un après l'autre, ils prononcèrent
« La mort. La mort. »
Deux paires de jumelles, Hadji. Quand les instruments furent apportés, Don Luis les offrit à Stéphane et à Patrice. « Nous ne sommes qu'à 1 mille de Sarek. Regardez vers la pointe. La barque doit être en route. »
Oui,
fit Patrice au bout d'un instant. Vous voyez, Stéphane?
Oui, seulement.
Seulement?
Il n'y a qu'un passager. Qu'un passager, en effet.
Ils posèrent leurs jumelles et l'un d'eux commença.
Un seul s'est enfui. Vorski, évidemment. Il aura tué son complice, Otto.
À moins que son complice, Otto, ne l'ait tué.
Pourquoi dites-vous cela?
Dame, rappelez-vous la prédiction faite à Vorski quand il était jeune. Ta femme périra sur la croix et toi, tu seras tué par un ami.
Je ne pense pas qu'une prédiction suffise.
Aussi ai-je d'autres preuves.
Lesquelles?
Alors, mes chers amis, cela fait partie des derniers problèmes que nous devons élucider ensemble. Et par exemple, quelle est votre idée sur la façon dont j'ai substitué Elfried Vorski à Madame d'Hergemont? Stéphane hocha la tête.
J'avoue n'avoir pas compris.
C'est pourtant simple. Lorsque dans un salon, un monsieur quelconque vous fait des tours d'escamotage ou devine vos pensées, vous vous dites, n'est-ce pas, qu'il doit y avoir là-dessous quelque artifice, l'aide d'un compère. Ne cherchez pas plus loin pour moi.
Hein ? Vous aviez un compère ?
Ma foi, oui.
Mais qui ?
Otto.
Otto ? Mais vous ne nous avez pas quittés. Vous ne lui avez pas parlé.
Comment aurais-je pu réussir sans sa complicité ? En réalité, j'ai eu dans cette affaire deux compères, Elfried et Otto, qui tous deux ont trahi Vorsky, soit par vengeance, soit par peur ou par cupidité. Tandis que vous entraîniez Vorsky loin du dolmen aux fées, Stéphane, moi, j'abordais Otto. L'accord fut rapidement conclu, moyennant quelques billets et contre la promesse qu'il sortirait sain et sauf de l'aventure. En outre, je lui appris que Vorsky avait subtilisé les 50 000 francs des sœurs Archinia.
Comment le saviez-vous ?
Par mon compère numéro 1, par Elfried, que j'avais continué d'interroger à voix basse pendant que vous guettiez l'approche de Vorsky, et qui me révéla également, en quelques mots rapides, ce qu'elle connaissait du passé de Vorsky.
En fin de compte, vous n'avez vu Otto qu'une fois.
2 heures plus tard, après la mort d'Elfried et après le feu d'artifice du chêne creux, seconde entrevue sous le dolmen aux fées. Vorsky dort, abruti par l'alcool, et Otto monte la garde. Vous comprenez si j'ai saisi l'occasion pour me documenter sur l'affaire et pour compléter mes renseignements sur Vorsky avec ceux que, dans l'ombre et depuis 2 ans, Otto n'a cessé de recueillir sur un patron qu'il déteste. Puis il décharge les revolvers de Vorsky et de Conrad, ou plutôt il enlève les balles tout en laissant les douilles. Puis il me passe la montre et le carnet de Vorsky, ainsi qu'un médaillon vide et une photographie de la mère de Vorsky qu'Otto lui avait subtilisé quelques mois auparavant. Toute chose qui me servait le lendemain à jouer au sorcier avec ledit Vorsky dans la crypte où il me retrouve. Voilà comment Otto et moi avons collaboré.
Soit, mais vous ne lui avez pourtant pas demandé de tuer Vorsky.
Certes, non.
En ce cas, qui nous prouve ?
Croyez-vous que Vorsky n'ait pas deviné à la fin cette collaboration qui est une des causes évidentes de sa défaite ? Et croyez-vous que le sieur Otto n'ait pas prévu cette éventualité ? Soyez-en sûr, aucun doute à ce propos. Vorsky, détaché de son arbre, eût supprimé son complice, autant pour se venger que pour retrouver les 50 000 francs des sœurs Archinia. Otto a pris les devants. Vorsky était là, impuissant, inerte, proie facile. Il l'a frappé. J'irai plus loin. Otto, qui est un lâche, n'a même pas frappé. Il aura tout simplement laissé Vorsky sur son arbre. Et de la sorte, le châtiment est complet. Êtes-vous satisfait maintenant, mes amis ? Et votre besoin de justice est-il assouvi ? Patrice et Stéphane se turent, impressionnés par la vision terrible que Don Luis évoquait à leurs yeux. « Allons, j'ai eu raison de ne pas vous obliger à prononcer la sentence là-bas, quand nous étions au pied du chêne et en face d'un homme vivant. Je vois que mes 2 juges auraient quelque peu flanché à cette minute-là. Et mon 3e juge aussi, n'est-ce pas, tout va bien ? Toi qui es un sensible et un larmoyant. Et je suis comme vous, mes amis. Nous ne sommes pas de ceux qui condamnent et qui frappent. Mais tout de même... Réfléchissez à ce qu'était Vorsky, à ses 30 crimes et à ses raffinements de cruauté. Et félicitez-moi d'avoir choisi comme juge, en dernier ressort, l'aveugle destin et comme bourreau responsable, l'exécrable Otto. Que la volonté des dieux soit faite. Les côtes de Sarek s'amincissaient à l'horizon. Elles disparurent dans la brume où se fondaient la mer et le ciel. Les 3 hommes gardaient le silence. Tous 3, ils pensaient à l'île morte, dévastée par la folie d'un homme. À l'île morte où bientôt quelques visiteurs trouveraient les traces inexplicables du drame, les issues des souterrains, les cellules avec leurs chambres de mort, la salle de la pierre-dieu, les cryptes funéraires, le cadavre de Conrad, le cadavre d'Elfried, les squelettes des sœurs Archinia, et tout au bout, près du dolmen aux fées où s'inscrivait la prophétie des 30 cercueils et des 4 croix dressées, le grand corps de Vorsky, solitaire, lamentable, déchiquetée par les corbeaux et par les oiseaux de nuit.